RFI, grand reportage, Xavier Besson.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, c'est une monnaie toute récente, créée en 2008 après la crise bancaire, une monnaie mondiale, virtuelle et qui n'appartient à aucune banque centrale. Le Bitcoin n'en finit plus de battre des records. En 2012, un Bitcoin valait 1 dollar, l'an passé c'était 1000 dollars et cette semaine plus de 15 000. Une telle flambée fait craindre une bulle spéculative et inquiète financiers et politiques qui souhaitent le réguler. La folle envolée du Bitcoin, c'est le grand reportage d'Ariane Gaffuri.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il vous fallait ?
Pour moi, c'était Bitcoin.
D'accord. Il me faudrait votre pièce d'identité. Combien vous souhaitez mettre ?
620.
D'accord. Donc là, dans une minute, ce sera sur votre portefeuille. Vous allez recevoir un mail donc sur votre adresse mail.
Merci.
Ils sont nombreux à faire la queue à la maison du Bitcoin à Paris pour vendre ou acheter des Bitcoins. Une première pour Patrick, la cinquantaine.
On va faire l'essai avec le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que c'est une monnaie qui est intéressante, ça monte. Par rapport aux banques, il y a plus d'intérêt à acheter du Bitcoin à l'heure actuelle que de mettre son argent en banque, c'est tout.
Mais là, le cours explose.
Oui, mais ça fait depuis qu'il est créé qu'il explose. Vous savez, les rumeurs, ça fait des années qu'on lui dit qu'il y aura une troisième guerre mondiale, on l'attend encore. Bon, bah, ça va peut-être arriver aussi, celle-là, on ne sait pas.
Là, vous allez investir combien ?
Je sais pas, peut-être 400, 600, je
sais pas. Et qu'est-ce que vous allez faire avec 400 ? Vous allez l'attendre ?
On va attendre que ça monte. Puis après, on va peut-être acheter d'autres petites crypto-monnaies à côté. Voilà.
Le client suivant lui conseille de ne surtout pas vendre ses bitcoins.
Moi, personnellement, je ne les vendrai pas maintenant.
Ça va monter, vous pensez ?
C'est le futur. Les banques traditionnelles et l'argent fiduciaire, comme on connaît, c'est fini.
Vous pensez que c'est la fin des banques classiques ?
Peut-être pas la fin, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il ne faut pas passer à côté.
Le grand public se passionne pour le Bitcoin qui a dépassé la semaine dernière le cap des 20 000 dollars avant de redescendre. Derrière cette fièvre spéculative existe une communauté d'informaticiens qui croient à l'avenir de ce nouveau système économique. Manuel Valente, directeur de la maison du Bitcoin.
La caractéristique fondamentale du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie qui est complètement décentralisée. C'est-à-dire que derrière le Bitcoin, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'État. Le Bitcoin fonctionne exclusivement par le biais d'un protocole informatique. Et ce protocole, il est distribué sur des milliers de machines de par le monde. Le nombre de Bitcoin total qui sera émis est fixé à 21 millions. On ne pourra jamais dépasser cette limite. À l'heure actuelle, on en a déjà créé 16 millions et demi. Et de fait, sur le plan financier, un bitcoin, ça se comporte un peu comme une pièce d'or, avec cette rareté intrinsèque qu'il a et le fait que il peut être contrôlé par aucune entité ni aucun État.
Et on utilise le bitcoin où ?
Le bitcoin est utilisé déjà comme investissement. On a plein de gens qui viennent nous voir dans l'espoir d'acheter du bitcoin, de voir le cours monter et ensuite de pouvoir le revendre en ayant effectué une plus-value. Il faut savoir que ça reste un produit qui est très spéculatif, très volatile. Il n'est pas rare de voir des évolutions du cours de 10 voire 15% par jour à la hausse comme à la baisse. Donc c'est quelque chose, il faut bien entendu rester prudent. Malgré tout, nous ce qu'on voit, c'est notamment, comme on le disait, les organismes financiers internationaux qui s'y intéressent de plus en plus et des grandes banques qui s'apprêtent à proposer du Bitcoin à leurs clients.
Il suffit de télécharger une application sur son smartphone pour créer un portefeuille virtuel. Les transactions sont sécurisées par une signature cryptographique unique, anonyme et infalsifiable. Mais attention, les vols de Bitcoin sont fréquents. À partir de 500 euros en valeur, mieux vaut sécuriser ces deniers virtuels sur des coffres-forts numériques type Ledger Nano. La start-up française qui l'a créée, Ledger, a vendu en 3 ans plus de 600 000 Ledger dans 165 pays dans le monde. Et l'envolée du Bitcoin attire aussi la convoitise des hackers. En décembre, la plateforme d'échange NiceHash s'est fait pirater plus de 4700 bitcoins pour une valeur de 73 milliards de dollars. Récemment, des cyberattaques auraient rapporté à des pirates nord-coréens des millions de dollars en monnaie virtuelle. Plus de 100 000 sites internet dans le monde acceptent le Bitcoin. En France, certains magasins l'ont également adopté. Yann Robert tient une boutique de lainage à Paris.
on accepte le Bitcoin. Là, on en est aux prémices. Depuis un an qu'on a mis cette initiative en place, j'ai eu 24 transactions. Ce qui n'est pas dérisoire, mais par exemple, passage le restaurant, il en a eu une centaine. Donc on est juste au démarrage. Après, c'est surtout des étrangers, américains, asiatiques, africains aussi, qui ont payé à travers le Bitcoin. C'est une alternative au système bancaire qui est mise en place depuis des années. Là, c'est des transactions qui sont faites de personne à personne, pas d'intermédiaire. C'est très sécurisé, c'est aussi rapide. Il suffit d'avoir une bonne application, enfin l'application adéquate et une bonne connexion à Internet et voilà.
Vous avez confiance dans ce Bitcoin ?
Oui, j'ai autant confiance dans le Bitcoin que les banques. Donc après, nous, en termes de commerce, le client qui rentre dans la boutique, en fait, il va payer en Bitcoin, mais nous, ça nous est transféré en euros sur notre compte bancaire. Sur les applications, on a le moyen de conserver la transaction en Bitcoin, mais le problème, c'est que si on fait ça, on va subir la volatilité du cours. C'est-à-dire que derrière, si le cours s'effondre, on va perdre de l'argent. S'il y a une hausse, en fait, il va falloir justifier la plus-value vis-à-vis de la fiscalité à ce niveau-là. C'est pas l'objet du commerce de spéculer.
Le Bitcoin n'est pas un système de paiement rentable pour les petits achats car les frais de transaction peuvent dépasser les 15 euros. Chaque transaction en Bitcoin est enregistrée et sécurisée par des dizaines de milliers d'ordinateurs en réseau partout dans le monde. Ce procédé s'appelle le minage. Sébastien Gouspillou vient justement d'ouvrir un data center, un centre de minage près de Nantes, en Bretagne, sur l'ancien site d'Alcatel.
En gros, ici, on a démonté tous les faux plafonds, changé les luminaires, nettoyé tous les sols techniques, il y avait des câbles partout. À terme, ici, on aura 1500 machines sur les trois data centers que vous voyez là. Donc, c'est une installation assez grosse.
Il y a une équivalence de ce type d'installation en France ?
Ah non, vous pouvez trouver l'équivalent en Géorgie ou en Islande, mais pratiquement nulle part ailleurs en Europe.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous ayez lancé cette énorme usine ?
Alors, cette usine-là, c'est parce qu'elle était disponible. Les locaux étaient disponibles. On a une puissance de 2,5 MW ici, ce qui est énorme. C'est très rare de trouver des locaux déjà équipés d'une telle puissance. Donc, on pouvait venir ici et créer une usine à peu de frais. Si on avait dû financer les installations électriques qu'on a ici, c'est des millions et des millions d'euros qu'il aurait fallu investir. C'est pas le cas. Donc, c'était une opportunité. Et nous, le propos était de faire du minage en France, parce qu'on fait déjà du minage en Ukraine, mais de faire du minage en France pour que la France puisse maîtriser cette technologie et puisse s'approprier Bitcoin et avoir son mot à dire dans le protocole Bitcoin, parce que c'est les mineurs qui décident de l'évolution du protocole.
Alors là, techniquement, on voit quelques machines, des serveurs de calcul avec des ventilateurs. Comment ça marche ?
C'est un serveur qui est là pour résoudre un calcul très complexe, un peu comme un sudoku. Donc, quand je vous envoie 10 euros, 100 euros, 1000 euros en Bitcoin, cette transaction doit être validée par ces machines-là. En gros, la transaction doit être décryptée, inscrite dans la blockchain. Et donc, ces machines servent à ça. Mes machines sont des mineurs, et nous, on est juste le gestionnaire des machines.
Oui, certes. Okay.
On se dit mineur, c'est vrai. Un mineur a pour mission, son rôle, c'est de valider les transactions, pas de créer du Bitcoin. Mais comme il valide des transactions, il est récompensé par du Bitcoin. C'est-à-dire que le protocole Bitcoin lui donne tous les nouveaux Bitcoins qui sortent. Donc, tous les nouveaux Bitcoins qui sont produits actuellement, c'est-à-dire 12,5 toutes les 10 minutes, sont distribués aux ordinateurs qui valident les transactions. C'est leur récompense.
Alors, la blockchain, qu'est-ce que c'est exactement ? On parle de blocs qui s'accrochent l'un à l'autre, indissociables, c'est quoi ?
Alors, une blockchain, c'est un élément constitutif du protocole Bitcoin. C'est juste un des éléments constitutifs. C'est le grand livre comptable dans lequel vont venir s'inscrire toutes les transactions, et ce, depuis le début du protocole.
Et à terme ?
À terme, quand il n'y aura plus de création monétaire, c'est-à-dire en 2140, quand il n'y aura plus de nouveaux bitcoins, on sera arrivé à 21 millions de bitcoins, les mineurs ne se rémunéreront plus que par les frais de transaction.
Vous avez investi combien dans tout ça ?
Moi, à titre personnel, énormément. C'est un peu secret. Mais bon, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont aidé. Hein.
Des investissements lourds, mais si la bulle spéculative éclate, quel plan B ?
On ne peut pas imaginer un plan B pour quelque chose qui n'arrivera pas. Aujourd'hui, tous les gens qui savent ce qu'est Bitcoin savent qu'il n'y a pas de bulle, ça n'explosera pas. Que ce soit surcoté aujourd'hui, j'en suis tout à fait conscient. Il y a effectivement un phénomène de mode, mais c'est le principe même de l'adoption. Et donc, effectivement, là, en ce moment, ça coûte cher. Et puis, ça va continuer à augmenter le prix, c'est certain. C'est une invention absolument incroyable de pouvoir avoir la monnaie d'Internet. Personne n'avait réussi à le faire. C'est une nouvelle économie qui s'est créée. C'est plus de 30 000 entreprises qui ne travaillent que dans cet écosystème. Ça garantit que le Bitcoin ne va pas s'arrêter demain.
Les Bitcoins gagnés, Sébastien Gouspillou les réinvestit dans de nouvelles machines. Des machines énergivores. Selon le cabinet américain Digiconomist, chaque transaction en bitcoin consomme plus de 230 kWh. C'est l'équivalent de 8 jours de consommation en électricité d'un ménage moyen aux États-Unis.
Le fait de miner du bitcoin, c'est énergivore. Il nous faut consommer de l'électricité. C'est ce qui fait la garantie de la valeur de bitcoin. S'il suffisait de ramasser les bitcoins par terre, ils n'auraient évidemment pas de valeur. Donc les mineurs engagent beaucoup d'argent pour créer des infrastructures, payent beaucoup d'argent pour se fournir en électricité. Ça, c'est certain. Par contre, les chiffres de Digiconomist sont digifantaisistes. On ne sait pas d'où sortent ces chiffres. Nous qui sommes dans ce métier-là, on sait qu'ils sont totalement surévalués. On estime aujourd'hui que la consommation totale du mining est de l'ordre de 16 TWh, pas du tout les 50 TWh qui sont annoncés dans ce genre de choses. La consommation d'un ménage américain sur une semaine, c'est des chiffres totalement délirants qui sont totalement hors de réalité. En plus, on pourrait se dire, depuis quand l'électricité, c'est sale ? Depuis quand l'électricité en soi est sale? C'est l'énergie la plus propre. Aujourd'hui, on veut transformer un parc automobile en électrique. C'est bien qu'on estime que c'est une énergie propre.
Curiosité de geek libertaire au départ, le bitcoin reste pour ses défenseurs un contre-pouvoir face à la domination des grands opérateurs numériques et des banques qui ont montré leurs limites lors de la crise financière de 2008. Pierre Noisa, cofondateur de Paymium, première bourse d'échange de crypto-monnaies en France.
Bitcoin, c'est l'aboutissement de 40 ans de recherche en cryptographie qui ont abouti en 2008 à cette invention publiée par l'inventeur, Satoshi Nakamoto, et qui aujourd'hui nous donne un réseau Bitcoin dont la valeur a augmenté en 2017 x 15. On parle en 2017 d'une explosion que je rattache à une prise de conscience en fait de l'importance de l'invention sur la transition numérique, parce que ça permet d'envisager la transition numérique autrement qu'avant, parce qu'avant cette invention, on n'avait pas d'autre modèle que celui de Google ou de Facebook, ou des fameux GAFAM qui contrôlent tout sur le réseau. Donc si on ne construit pas des systèmes décentralisés comme Bitcoin, on va se retrouver qu'avec des GAFAM ou des banques, ce qui est pareil. Et aujourd'hui, moi je dis que Bitcoin, c'est indispensable comme antidote au modèle centralisé. Et ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment être conscient, parce que sinon, on reste dans des gros problèmes d'inégalité. Et quand je dis inégalité, c'est pas seulement à l'intérieur de nos sociétés, c'est entre les pays qui ont une monnaie forte et ceux qui ont une monnaie étatique très faible. Et ça, c'est quand même l'immense majorité des pays. C'est pas par hasard qu'en Argentine, a un écosystème Bitcoin très actif. Dans ces pays-là, les gens ont vécu, à titre personnel, les aléas d'une monnaie étatique. Donc ils savent bien que cette alternative, elle est intéressante.
Le meilleur argument en faveur du Bitcoin, c'est qu'il peut être utilisé dans des régions géographiques en difficulté. Le Zimbabwe l'a aussi adopté. Le Venezuela est en passe de créer sa propre crypto-monnaie. Mais la flambée vertigineuse du Bitcoin inquiète les banques centrales qui n'ont aucune prise sur son évolution. Et la France veut mettre la pression sur le G20 pour réguler cette monnaie virtuelle.
Oui, bonjour, c'est Toussaint Saxo Bank à Paris. Je ne vous dérange pas? Donc le compte a bien été ouvert. Vous souhaitez transférer quel montant, vous, monsieur? Dans les 30 000 euros, très bien, c'est noté. Très bien.
Christopher Dambic, chercheur à Saxo Bank, une banque d'affaires, tire la sonnette d'alarme.
La flambée du Bitcoin, elle est liée tout d'abord, bien sûr, à ce qu'on parlera offre et demande, à savoir que vous avez un nombre limité de Bitcoins qui sont en circulation. Donc la rareté entraîne automatiquement une hausse des prix. Mais ce n'est pas le seul phénomène. Il faut aussi souligner que c'est un phénomène de bulle spéculative derrière cela. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Au départ, le Bitcoin est simplement investi des gens qui connaissaient très bien les marchés financiers. Donc pas beaucoup de monde finalement, mais le prix a commencé à augmenter. Et comme dans toute bulle spéculative, à un certain stade, tout le monde a commencé à parler de cette forte appréciation. Et vous avez des investisseurs qui ne s'y connaissent pas, parfois qui n'ont jamais investi sur un seul produit financier, qui font augmenter le prix. Aujourd'hui, on est typiquement dans une bulle spéculative. À un certain stade, ça va bien finir par éclater, et c'est le risque.
Si la bulle éclate, qu'est-ce qui va se passer?
Ceux qui seront acheteurs à ce moment-là ne pourront certainement pas récupérer leurs gains, sachant qu'en plus, les plateformes qui proposent d'investir sur le Bitcoin ou de détenir des Bitcoins ne sont pas dans des pays qui sont réglementés. Donc la vraie problématique, c'est de savoir éclatement de bulle, est-ce que je serai en mesure de récupérer le peu d'argent que j'aurai sur ces plateformes qui ne sont pas dans des pays coopératifs, qui ne sont pas réglementés par exemple par les autorités françaises? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez conscience que c'est un produit risqué, c'est un peu la composante risquée de votre portefeuille, mais investissez alors en tout cas avec des établissements financiers qui sont régulés par exemple par les autorités françaises, parce qu'automatiquement vous êtes quasiment sûr de récupérer le peu de gains que vous aurez.
Mi-décembre, le Bitcoin a été en quelque sorte légitimé par la bourse de Chicago. Elle propose aux investisseurs de parier sur le prix futur du Bitcoin. C'est ce qu'on appelle le marché à terme. Le CME, le Chicago Mercantile Exchange, vient de lui emboîter le pas. Alors, sommes-nous à un tournant majeur, une sorte d'ubérisation de la finance ?
Il serait trompeur de considérer que le Bitcoin est un élément d'ubérisation de la finance, parce qu'on le voit finalement assez bien aujourd'hui. À l'origine, le Bitcoin a été développé contre la finance internationale, et c'est finalement la finance internationale qui permet aujourd'hui son expansion en proposant de nouveaux produits. De mon point de vue, le Bitcoin est simplement un outil d'investissement financier hautement spéculatif qui est proposé par la finance. Mais derrière cela, bien sûr, il y a la technologie blockchain qui est intéressante. Et cette technologie blockchain, elle ne va très clairement pas ubériser la finance, parce qu'on voit que toutes les banques aujourd'hui essayent d'intégrer dans leurs écosystèmes la blockchain, parce que ça va permettre une rapidité des transactions, de très nettes réductions de coûts.
Voilà. Et on voit que ce portefeuille a envoyé de l'argent à ces trois-là et que celui-ci a renvoyé de l'argent à celui-ci.
François Beauvois est commissaire à la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire. Sa mission, traquer les financements occultes et le blanchiment d'argent facilité par l'anonymat derrière les crypto-monnaies.
À la base, le Bitcoin n'est pas du tout un outil criminel, mais il a été détourné de son usage premier parce qu'il offre ce qu'on appelle du pseudonymat. C'est-à-dire qu'il se prête assez bien, par le caractère en fait liquide de l'outil numérique, à des manœuvres de blanchiment, littéralement. C'est-à-dire que vous faites rebondir votre argent d'un portefeuille numérique à un autre. Il existe maintenant des services qu'on appelle des tumblers ou des mixeurs, des services qui servent justement à blanchir l'argent et voir arriver l'argent depuis un portefeuille vers cette grosse lessiveuse, et il repart, mais essaimé entre plusieurs autres portefeuilles, et du coup vous perdez la piste. Cela permet de couvrir ces traces beaucoup plus efficacement qu'avec les circuits financiers traditionnels, qui eux sont beaucoup plus lourds, même s'ils sont performants, forcent à rebondir entre de multiples pays, induisent des commissions plus lourdes, et surtout une infrastructure et des compétences qui sont beaucoup plus développées.
Mais tous ces signaux d'alarme n'inquiètent pas Pascal, un trader indépendant. Il reconnaît avoir gagné plus de 150 000 dollars en investissant dans la monnaie numérique. Ses prévisions ?
Il y aura une petite baisse à partir du 15 janvier.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
L'expérience. J'en ai pas mal de Bitcoin. C'est l'expérience. J'ai tradé, je sais comment travaille sa courbe, ses influences et autres. Et certains analystes comme le FMI prévoient quand même une crise mondiale en 2020 et 2021, une crise monétaire. Donc je ne veux pas affoler les gens, mais à ce moment-là, l'or et le bitcoin vont grimper au 7e ciel. Donc il serait prudent d'en acheter maintenant.
La fièvre du bitcoin, un reportage d'Ariane Gaffury, réalisation Pierre Chaffanjon.
Dream.